Seigneur, ce matin, nous sommes en train de te dire merci pour la grâce que tu nous donnes. Et je prie alors que nous voulons écouter ta parole, que tu nous parles. Tu sais combien nous sommes venus de nos maisons, de nos familles, de nos milieux respectifs, assoiffés de toi. Et nous voulons au travers de ta parole que tu étanches notre soif. Nous voulons en quittant ces lieux, cet avant-midi, dire réellement Dieu nous a parlé. Et lorsque tu vas le faire, nous te promettons de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Plus que ça? Aidez-moi à accueillir ceux qui sont assis à côté de vous en leur souhaitant la bienvenue. Si vous ne connaissez pas les noms, c'est une occasion pour demander les noms. Demandez comment ils vont, comment évolue le programme de prière. Vous pouvez demander quel type de jeûne ils sont en train d'appliquer pendant ce programme de prière. Je vois deux voisins qui sont en train de bouder les autres voisins. Et je crois fermement que par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Mais permettez-moi encore une fois de dire merci au révérend pasteur ainsi qu'à tous les autres pasteurs qui sont autour de lui et tous les anciens. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Dieu pour ses serviteurs? Merci pour l'invitation, merci pour la marque de confiance, merci pour l'amour que vous avez en notre égard. Merci aussi à mon pasteur, il s'appelle révérend Banyene, le pasteur de l'église 8e, c'est pas que la source. Si je suis venu, c'est avec sa permission et sa bénédiction. Et j'aimerais aussi lui dire merci. Merci aussi à mon épouse qui m'a accompagné durant toute la semaine. Et merci aussi à vous tous qui êtes venus écouter la parole de Dieu ce matin. J'aimerais nous proposer un texte de la Bible, Marc, chapitre 10, les versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, 46 à 53. Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53. C'est au travers de ces textes que nous allons tirer le message que Dieu nous a mis à cœur pour nous, pour ce deuxième culte, ce qui ne sera pas le même message pour le troisième culte. Parce que je vais aussi intervenir dans le troisième. Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52, je lis pour nous tous au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le réprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » À la verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » À la verset suivant, s'il y a un verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin, acclamant la parole du Seigneur. J'aimerais au travers de ces textes, essayer de faire comme un résumé de tout ce que j'ai eu à dire depuis le dimanche passé et tout au long de la semaine. Ce texte est riche, beaucoup de bénédictions, beaucoup de richesses. Ça peut même nous prendre toute une semaine afin de l'exploiter, mais par la grâce de Dieu, on ne fera que survoler certaines choses. Et je crois que tout ce que nous aurons à dire de la part de Dieu, ça nous sera bénéfique et ça va nous aider ce matin. J'aimerais nous proposer comme texte ce matin Toujours dans ces grands thèmes que nous sommes en train d'exploiter, je puis tout par celui qui me fortifie. Le sous-thème que je vais exploiter ce matin, c'est ce que la vie de Bartimée nous enseigne sur la prière. C'est que la vie de Bartimée nous enseigne sur la prière. La Bible est en train de nous présenter un homme appelé Bartimée. Et la Bible nous donne les caractéristiques de cet homme. La Bible dit premièrement, il était mendiant. Et sa mendicité était conséquence du fait qu'il était aveugle. Mendiant, aveugle. Et chaque matin, il était au bord du chemin, il était en train de quémander, il demandait aux gens l'aumône. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train d'accomplir cette activité quotidienne, journalière, qu'il avait toujours eu à faire, un jour il a entendu des bruits autour de lui. Et il pose la question, d'où vient le bruit? Et les gens lui disent, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Mais lui commence à crier, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le même personne qui était autour de lui commençait à les décourager en lui disant, tu es en train de déranger Jésus, arrête-toi, arrête-toi, arrête de crier encore. Mais la Bible dit, plus on le reprenait pour le faire taire, plus il criait encore davantage. Et à un niveau, Jésus le regarde et dit, viens. Et pendant qu'il s'élève pour aller vers Jésus, la même personne qui l'est découragé commence à l'encourager et lui dit, va, il t'appelle. Va, il t'appelle. Et dès qu'il arrive auprès de Jésus, Jésus lui pose une question. Il dit, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et après avoir reçu sa guérison, la Bible déclare, il suivit Jésus sur le chemin. Bartimée, c'est un mendiant aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas la vue. Mais malgré que cet homme était aveugle, il pouvait entendre. Malgré qu'il ne voyait pas, malgré que ses yeux ne fonctionnent pas, il pouvait quand même entendre. Ses oreilles étaient en train de fonctionner. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'est pas resté à pleurer sur ce qu'il n'avait pas. À un niveau, il a choisi de se déconcentrer de ce qu'il n'avait pas pour fixer ses regards sur ce qu'il avait. Il s'est dit, même lorsque je n'ai pas la vue, même lorsque je ne peux pas voir, je peux quand même entendre. Et si je me sers de ce que j'ai, je suis capable même d'avoir les choses que je n'ai pas. La première leçon que j'aimerais nous dire, frères et sœurs, c'est que tu ne peux pas voir la valeur de ce que tu as en n'ayant que les regards fixés sur ce que tu n'as pas ou ce que tu aurais souhaité avoir. Dans la vie, tu ne peux pas voir la valeur de ce que tu as en n'ayant que les regards fixés sur ce que tu n'as pas. À force de ne rester concentré sur ce que tu n'as pas, tu peux risquer de ne pas voir la valeur de ce que tu as. Bartimée, c'est un homme qui manque la vue. Mais le manque d'une chose n'est pas le manque de toute chose. Bartimée, c'est quelqu'un qui a perdu la vue. Mais la perte d'une chose n'est pas la perte de toute chose. Malgré les choses que tu n'as pas, il y a aussi des choses que tu as. Malgré les choses que tu as perdues dans la vie, il y a aussi des choses que tu as. Et pour que Dieu change ta vie, pour que Dieu révolutionne ta vie, il ne se servira forcément pas de ce que tu as perdu, mais il se servira de ce qui t'est resté, pour même, si tu arrives à bien les gérer, à te donner même ce que tu n'avais pas. Mais il arrive que dans la vie, on n'arrive pas à recevoir des choses parce qu'on est fixé, concentré, focalisé aux choses que nous n'avons pas. C'est comme cet homme, dans Jean chapitre 5, la Bible dit, Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il regarde cet homme, il lui pose une question. Veux-tu être guéri? La question semble être simple. Mais écoutez la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Comment tu es en train de pleurer? Tu es face à Jésus, mais tu pleures que tu n'as personne. Parce que tu as le regard fixé sur toutes les personnes qui sont parties. Et il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Toutes les fois que l'ange arrivait et qu'il agitait l'eau, la Bible déclare, à cette piscine-là, celui qui localisait l'eau, le premier qui était jeté dans l'eau, était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais ce jour-là, ce n'est pas les anges qui sont arrivés pour rendre visite à cet homme. C'est celui qui envoyait les anges qui est arrivé. Ce jour-là, ce n'est pas l'eau qui va être agitée de la piscine, c'est l'eau de vie qui est en mouvement pour lui. Lorsque l'ange agitait l'eau, il fallait localiser le mouvement de l'eau. Mais lorsque l'eau de vie entre en mouvement, pour vous, c'est lui qui vous localise. Mais il est au point de rater sa guérison parce qu'au lieu de regarder ce qu'il a, il est en train de regarder ce qu'il n'a pas. Il dit, je n'ai personne. Il a oublié que Jésus est la personne de ceux qui n'ont personne. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que ta vie ne peut plus changer. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus rien qui t'est resté alors que tu as Jésus, alors que tu as Dieu. Et dans la prière, tant que tu n'as que les regards fixés sur ce que tu n'as pas, tant que tu n'as les regards fixés sur ce que tu as perdu, tu ne sauras pas prier. Pour arriver à bien prier, la première chose que nous devons faire, apprenons à nous déconcentrer de toutes les choses que nous n'avons pas et fixer nos regards sur ce que nous avons. Si tu utilises bien ce que tu as, tu peux même arriver à avoir ce que tu n'as pas. Il n'y a aucun niveau de destruction qu'un homme puisse connaître au point de ne rester vide. Ne l'oubliez pas, la perte d'une chose, ce n'est pas la perte de toute chose. Le manque d'une chose n'est pas le manque de toute chose. Malgré ce que tu as manqué, malgré ce que tu as perdu, il y a quelque chose que tu as. Et tu peux te servir de ça pour que Dieu change ta vie, pour que Dieu commence quelque chose de nouveau avec toi. Et la Bible déclare, pendant qu'il a entendu des pleurs et des cris autour de lui, il pose la question, d'où vient le bruit? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Et il commence à crier. La question c'est pourquoi Bartimée n'a pas attendu après pour crier? Pourquoi crier seulement ici? Bartimée allait se dire, mais quand même c'est Jésus qui est en train de passer et il arrive que Jésus passe plusieurs fois. Alors je ne veux pas crier aujourd'hui, j'attendrai une autre fois, j'entendrai une autre occasion, une autre fois lorsque Jésus reviendra et je vais encore crier. Mais ce que j'aime avec Bartimée, c'est que Bartimée a su discerner le temps de sa visitation. Si Bartimée n'allait pas crier ici, vers Jésus, Bartimée allait rater sa guérison. Si vous voulez savoir comment, il faut regarder les passages qui suivent juste après. Le chapitre qui vient après, ce chapitre que nous venons de lire, parle de comment Jésus va triomphalement à Jérusalem. Et après cela, il est allé être crucifié. Et après la crucifixion, il a vécu sur la terre pendant peu de temps et après il s'en est allé au ciel. Ça veut dire, si Bartimée allait rater cette occasion, il allait rater cela à vie. C'est une chose de prier pour que Dieu nous visite. C'est une chose de demander à Dieu de changer nos vies. Et c'est une autre chose de discerner le temps de sa visitation lorsque Dieu exauce nos prières. Beaucoup de gens prient. Mais peu sont les hommes et les femmes qui sont capables de discerner le temps, la saison de leur visitation lorsque Dieu exauce leur prière. Parmi les jours, les choses qui ont eu à faire pleurer Jésus, vous savez que la Bible nous relate deux seules fois où Jésus a pleuré. Jésus a eu à pleurer certainement peut-être dans d'autres occasions, mais deux seules fois où la Bible écrit cela, la première fois, c'est le jour où il est devant la tombe de Lazare. La Bible dit « Jésus pleura ». Mais la deuxième fois, c'est dans Luc chapitre 19, les versets 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. La Bible dit, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il pleure sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Qu'il y a des gens qui demandent à Dieu de les visiter, de changer leur vie. Mais lorsque Dieu accomplit cela, ils ne savent pas discerner le temps de leur visitation. J'étais en train de dire hier, pour ceux qui ont été là hier, et s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été là, je m'aimerais encore reprendre cela, la vie que nous vivons sur cette terre est faite de temps et de saisons. Et les saisons ne se ressemblent pas dans la vie. La saison pluvieuse et la saison sèche, ce sont deux saisons différentes. Et j'étais en train de dire hier, deux personnes peuvent être sur une même terre, mais ne pas être dans une même saison. De la même manière que c'est possible d'avoir deux mêmes arbres dans un même jardin, mais deux arbres qui ne sont pas dans une même saison. C'est possible d'avoir deux personnes qui se partagent la même terre, mais qui ne sont pas dans les mêmes saisons. C'est possible d'avoir deux personnes qui se partagent le même bureau, mais sans être dans une même saison. C'est possible d'avoir deux personnes qui se partagent une même parcelle, mais sans être dans une même saison. Et c'est là que j'étais en train de dire hier, voilà pourquoi dans la vie, ne permettez jamais que la moisson de quelqu'un d'autre vous fasse manger votre sémence. Si quelqu'un d'autre à côté de vous est en train de moissonner, vous êtes encore dans la saison de la semence, que la moisson de quelqu'un d'autre ne te fasse pas manger ta semence. Mais chaque saison de la vie doit être bien gérée. La manipulation des saisons, c'est nous faire croire qu'elles vont subsister éternellement. Aucune saison n'est éternelle. Aucune saison n'est permanente. Être jeune, c'est une saison. Et il arrive des fois en tant que jeune d'oublier que vous ne les resterez pas à vie. Et je disais hier, pour arriver à bien gérer les saisons de la vie, il nous faut avoir trois choses. La première des choses, nous l'avons appelée l'intelligence de temps. L'intelligence de temps est ce qui nous aide à savoir en quelle saison je suis. Parce que c'est très dangereux d'être dans une saison mais ne pas les reconnaître. C'est très dangereux d'être dans la saison de la préparation, tu penses que tu es déjà dans la saison de l'exposition. Tu vas vouloir qu'on t'expose, mais lorsqu'on t'expose, tu exposes l'ignorance et ça te ferme de porte pendant des années à venir. C'est très dangereux d'être dans la saison de la semence et tu penses être dans la saison de la moisson. C'est très dangereux d'être déjà dans la saison de la moisson, tu penses être dans la saison de la semence. L'intelligence de temps est ce qui nous aide à savoir en quelle saison suis-je. J'aimerais vous poser une question, en quelle saison êtes-vous? La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, en parlant d'une catégorie des gens dans les tribus d'Israël, la Bible parle des fils d'Issacar. 1 Chronique 12, 32. La Bible dit les fils d'Issacar avaient l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence de temps vous aide à savoir en quelle saison suis-je. Mais à part l'intelligence de temps, la deuxième des choses qui nous aidera à bien gérer les saisons de la vie, ça s'appelle le discernement des signes de temps. Chaque saison est faite de caractéristiques précises et particulières. Lorsqu'on est dans une saison, on le sait. Mais on le sait comment? C'est au travers les signes qui accompagnent une saison. Mais que de gens qui peuvent être devant un signe dans une saison et parce qu'ils n'ont pas le discernement des signes des temps, passer à côté de ce que Dieu voulait leur transmettre comme message. Et je disais, la troisième des choses qui nous aidera à bien gérer les saisons de la vie, ça s'appelle la sagesse de temps. La sagesse de temps veut dire, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que si je ne fais pas, je rate à vie. La sagesse de temps implique le langage du temps, les attitudes du temps, le choix du temps. Il y a des saisons de la vie, telles que je le disais hier, dans lesquelles si vous n'avez pas investi, vous n'investirez pas. Il y a des saisons de la vie dans lesquelles, si vous ne vous êtes pas marié, vous aurez difficulté à opérer un choix pour vous marier. Il y a des saisons de la vie où si vous n'avez pas posé certains actes, vous les regretterez toute votre vie. Et je suis en train de dire hier, en parlant de l'investissement, apprenez à investir dans le durable, pas dans le non durable. J'ai relaté l'histoire de cet homme que Dieu avait béni financièrement à un niveau terrible. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il faisait un mois, il dort à Serena. Le mois suivant, il dort à Youssi. Le mois d'après, et les gens étaient impressionnés autour de lui. Partout là où il passait, mon pao, mon pao, mon pao. Mais quelques temps après, l'argent est parti. Et ce qui est triste, il a été chassé par toutes ces personnes qu'il hébergeait avant. Et se retrouve dans une situation dans laquelle il n'a eu aucun investissement. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de parcelle. Et ce qui est triste, c'est que les gens qui travaillaient pour lui, ce qui était ses cuisiniers, ce qu'il avait ses habits, et s'étaient achetés des parcelles et des maisons. Il y a des saisons de la vie, si tu ne sais pas bien le gérer, tu vas regretter toute ta vie. Ne pense pas que les facilités que tu as, tu les auras toujours. Ne pense pas que l'argent que tu as, tu l'auras toujours. Il y a des saisons de la vie où des fois l'investissement que tu puis t'accorder ou t'offrir, ce n'est pas acheter une parcelle, mais c'est investir dans ta tête. Avoir un nouveau diplôme. C'est là, par exemple, lorsque notre pays a shifté dans les systèmes LMD, on dit à tous les enseignants qui n'ont pas un master et plus qui ne pourront plus enseigner. Vous savez, à l'école théologique, là où j'ai étudié, nous étions, je dirais, leur aîné scientifique d'une année. L'année qui venait juste après nous, il y avait deux papas. Un, il est du Rwanda, et un autre, il est du Sud-Soudan. Celui du Rwanda, il avait 78 ans. Il est venu étudier. Parce qu'on leur avait dit que pour avoir une promotion dans leur communauté et devenir représentant, il doit avoir un diplôme théologique. Et il se rend compte qu'à cet âge-là, il n'a pas de diplôme théologique. Il est venu étudier. 78 ans. Et vous savez ce qui était drôle, c'est quoi? Dans une semaine, il étudiait 2 jours seulement. Les autres jours, il n'arrivait pas à aller dans l'auditoire. Ce qui est bizarre, c'est les rares étudiants que j'ai vus lorsqu'on est en train de faire les examens. Le prof dit, toi, tu vas faire l'examen avec tes notes. Mais malgré qu'on lui autorise à faire l'examen avec les notes, il échoue. Et puis, on leur interdisait toujours ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne comprenaient pas. Les gens avec qui il étudiait, surtout les plus jeunes, ils se moquaient de lui, ils les taquinaient de fois. Ils lui disaient, apparemment, toi, tu vas étudier, mais tu seras collé dans la tombe. 78 ans. Il n'a pas fini ses études. Il est rentré. Il y avait un autre, il avait 74 ans, du Sud-Soudan. Lui aussi n'a pas fini ses études. Il y a des saisons de la vie. Si vous ne savez pas le maximiser, vous allez regretter toute votre vie. Bartimée, il sait reconnaître le temps de sa visitation. Il dit, si je rate cette occasion, je raterai cette occasion à vie. Frères et sœurs, nous sommes en train de prier. Tout au long de ces programmes de prière, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui va exaucer nos prières. Il va nous visiter, chacun dans le domaine de ses préoccupations. Mais c'est un malheur d'être visité par Dieu et de ne pas reconnaître le temps de sa visitation. C'est des gens qui vont demander à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin d'une stabilité en termes de fiançailles, en termes de mariage. » Et lorsque Dieu envoie ces gens-là, il y a hier une sœur qui disait, « Je ne peux pas me marier à toi. » Ah, on a moigne. Moigne. Critère de choix. Moigne. Elle dit, « Tu vas le regretter toute ta vie. » Bartimée a eu à saisir le temps de sa visitation. Frères et sœurs, au-delà de prier, demandons à Dieu de nous faire la grâce de saisir notre temps de visitation lorsque ce temps-là arrivera. Et la Bible déclare, lorsqu'il a posé des questions, il dit, d'où vient ce bruit? Les gens lui disent, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Mais il commence à crier. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il a posé des questions, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lorsqu'il crie, il crie quoi? Jésus, fils de David. Comment on lui a parlé du fils de Nazareth, mais lui, il crie, fils de David. La révélation de Christ est ce qui te donnera de voir un fils de David là où les autres voient un fils de Nazareth. Ça veut dire quoi? Dans la prière, apprenez à prier sur base de la connaissance de votre Dieu. Nous l'avons dit pendant la semaine, les réalités, ce n'est pas la vérité. Et il arrive que la plupart des gens dans leur prière, ils soient juste d'ignorer leur Dieu et ils prient par rapport à la connaissance de leur défi, mais pas à la connaissance de leur Dieu. Sans la connaissance de Dieu, tu ne sauras pas bien prier. Sans la connaissance de ton Dieu, tu ne sauras pas faire de prière qu'il faut. Et comme je parle de la connaissance de Dieu, je voudrais que vous reteniez ces 3 choses sur la connaissance de Dieu. La première des choses, c'est que Dieu est incompréhensible, mais il est connaissable. Il y a une différence entre l'incompréhensibilité et la connaissabilité. C'est 2 domaines que les gens confondent. Vous entendrez des gens vous dire, mais on nous parle de connaître Dieu. Est-ce qu'un homme peut vraiment connaître Dieu? Le Dieu grand, le Dieu insondable, le Dieu que la terre et les ciels ne peuvent contenir. Est-ce qu'on peut vraiment le connaître en tant qu'humain? Il y a une différence entre l'incompréhensibilité et la connaissabilité. Éphésiens chapitre 3, le verset 8. Paul est en train de dire, Éphésiens 3, 8, il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, il m'a été accordé d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. » Ça veut dire, Christ est incompréhensible. Incompréhensible veut dire celui qu'on ne peut pas maîtriser dans sa totalité sur cette terre ici. Mais malgré que tu ne peux pas connaître Dieu dans sa totalité, tu peux vraiment le connaître. J'aime un auteur américain, il s'appelle John Piper. John Piper a dit, « We can never know God fully, but we can know him truly. » Nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement, mais nous pouvons le connaître du vrai. Dieu est incompréhensible. Christ est incompréhensible, mais il est connaissable. La deuxième des choses à retenir, c'est que la connaissance de Dieu n'est pas deux choses. La connaissance de Dieu, ce n'est pas premièrement la familiarité aux choses de Dieu. Nous l'avons dit encore pendant la semaine. 1 Samuel chapitre 3, le verset 7, on a amené Samuel, le jeune Samuel, dans la maison de Dieu. Il habite dans la maison de Dieu. Il sait comment les choses se passent dans la maison de Dieu. Il sait où on place quoi dans la maison de Dieu. La Bible précise même qu'il dormait près de l'arche de l'Alliance. Mais la Bible dit, lorsque Dieu vient l'appeler, au verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Comment connaître la maison de Dieu? Comment connaître où on place quoi dans la maison de Dieu, mais ne pas encore connaître l'Éternel? Et disait, c'est possible de connaître la maison de Dieu sans jamais rencontrer les dieux de la maison de Dieu. La connaissance de la maison de Dieu n'est pas la connaissance du Dieu de la maison de Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas aussi se limiter à avoir des informations sur Dieu. Il y a une différence entre connaître des choses sur quelqu'un et connaître cette personne. Je crois que la plupart d'entre nous ici, nous avons des informations sur le président de la République. Mais est-ce que nous connaissons le président de la République? Est-ce qu'il connaît même que dans la RDC, il y a quelqu'un comme vous qui existe? Mais vous connaissez, vous avez des informations sur vous. Connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu, c'est deux domaines différents. L'idéal est que tout ce que nous avons comme information sur Dieu, que ça nous conduise à connaître Dieu. C'est possible de connaître des choses sur Dieu sans connaître Dieu, mais c'est impossible de connaître Dieu sans connaître des choses sur Dieu. Troisième chose à retenir sur la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ, c'est que la connaissance de Dieu nous est très importante dans la vie. Très importante. Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu ne connais pas ton Dieu. Et parmi les quelques importances de la connaissance de Dieu, la première des choses, Daniel chapitre 11, le verset 32. Dans Daniel chapitre 11, le verset 32, la Bible est en train de démontrer que le degré de votre fermeté dans la marche avec Dieu sera fonction du degré de votre connaissance de Dieu. Daniel est en train de dire, en parlant des temps difficiles que le monde connaîtra, dans lesquels le sanctuaire de Dieu sera profané. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la Bible en français, elle se limite là-bas, agiront avec fermeté. Mais la Bible en Swahili Congo et la version en anglais King James ajoute, et ils feront des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Le degré de votre fermeté dans la marche avec Dieu sera toujours proportionnel au degré de votre connaissance de Dieu. La deuxième des choses, 1 Chronique 28, 9. Dans 1 Chronique 28, 9, David est à la fin de sa vie, il est en train de parler à son fils Salomon. Il dit, et toi Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. La qualité de ton service pour Dieu sera fonction de la qualité de ta connaissance de Dieu. Qu'il y ait des gens qui servent Dieu comme s'ils étaient en train de faire faveur à un homme. Ils se relâchent dans leur zèle pour Dieu parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Plus tu connaîtras ton Dieu, mieux tu le serviras. Troisième chose, la connaissance de Dieu influence notre consécration pour Dieu. Plus tu le connaîtras, mieux tu te consacreras à lui. Je dirais encore, il n'y a pas meilleur enseignant de la consécration pour Dieu comme la connaissance de Dieu. Le jour où on amène le jeune Samuel, on le place dans la maison de Dieu. La Bible déclare que c'était pendant une période très difficile pour les enfants d'Israël. Les sanctuaires avaient été profanés. Au point où les fils de Eli, les sacrificateurs, étaient des hommes qui commençaient à voler les offrandes de l'Éternel. Et pendant cette période-là, les sacrifices qu'on amenait appartenaient aux sacrificateurs. Mais ils sont en train de voler les sacrifices, les offrandes. Non, ils avaient atteint un niveau de vol qu'ils volaient ce qui leur appartenait. Tu as atteint un niveau élevé de vol, que tu commences à voler ce qui t'appartient. Parce que vous, ça ne vous arrive jamais. Lorsque tu reviens de l'école, à l'école secondaire, l'école primaire, tu es très affamé et tu vas dans une cuvette, dans la cuisine, tu prends quelque chose. Alors, lorsque tu vas demander, ma nourriture, elle est où? On te montre là où tu as volé. Et je me suis volé. Mais c'est pas. Ils volent ce qui leur appartient. Au-delà des vols, la Bible précise qu'ils couchaient même avec les femmes qui venaient rencontrer Dieu dans la maison de Dieu. Mais la Bible est dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12. La Bible nous donne la raison de ce degré de corruption. La Bible dit, ils étaient des hommes pervers parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Il n'y a rien qui est meilleur enseignant de la consécration à Dieu comme la connaissance personnelle de son Dieu. Une autre importance est que plus vous connaîtrez votre Dieu, mieux vous vous connaîtrez. Tu ne peux pas te connaître tant que tu ne connais pas Dieu. Ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 16, les versets 16 à 19, Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» On lui dit, les uns disent que tu es Élie, les autres Jean-Baptiste, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, échange des questions. Il dit, et pour vous, alors, qui dites-vous que je suis? Et Pierre se lève, il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et après cela, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est une révélation qui est venue de mon Père. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et c'est lorsque Pierre a dit à Jésus qui Jésus était, que Jésus lui a dit qui il était. C'est lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es Christ, que Jésus lui a dit, tu es Pierre. Tu ne peux pas te connaître sans connaître Dieu. Plus tu grandiras dans ta connaissance de Dieu, mieux tu grandiras dans ta propre connaissance. Et la Bible dit, pendant que Bartimée a crié sur base de sa connaissance de Dieu, elle disait, lorsque nous prions, prions en rapport avec la connaissance de notre Dieu. J'étais en train de vous dire ici comment notre Dieu, c'est quelqu'un qui a créé tout à partir du vide. La matière première, le jour où Dieu était en train de créer, c'était le vide. Et si on vous dit, ça ne peut jamais se réaliser dans ta vie, parce qu'il y a ça que tu n'as pas, il y a ça. Le Dieu que tu pries est capable de t'accorder ce qui n'existe pas. Il est capable de ramener à la vie ce qui n'existe pas. Alors pendant que tu pries, apprends à prier en tenant compte ou en fonction de la connaissance de son Dieu. Et la Bible dit, plus il criait, plus on le reprenait pour le faire taire. Mais ce que j'aime avec lui, pendant qu'on est en train de le reprendre, il criait encore davantage. Parce qu'il a compris que dans la vie, mieux vaut que les hommes vous reprennent, vous disant que vous dérangez trop Dieu, au lieu que Dieu vous reprenne, vous disant que vous dérangez trop les hommes. Le homme lui disait, tu es en train de trop déranger Jésus. Arrête-toi, tu en fais du trop. Plus on les reprend, plus il crie encore davantage. Il dit, je préfère que les hommes me disent que je dérange trop Dieu, au lieu que Dieu me reprenne me disant que je dérange trop les hommes. Malgré ce qu'il a connu comme opposition, il a persévéré dans sa prière. Quatrième chose à retenir, c'est qu'il nous faut persévérer dans la prière. Prier pendant 14 jours, c'est bon. Jeûner pendant 14 jours, c'est bon. Mais si on ne persévère pas, ça ne va pas trop nous aider. C'est une fois ici, comment on demande à quelqu'un, une fois on lui dit, mais persévérer veut dire quoi? Il réfléchit, il dit, persévérer veut dire percer et vous verrez. Percer. Il y a des choses que tu ne verras jamais de la part de Dieu tant que tu n'as pas appris à être persévérant dans la prière, persévérant dans ta recherche de Dieu. Même la prière en soi, Matthieu 7, 7, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Les trois types de prières. Premièrement, les prières instantanées. Tu demandes, on te donne au même moment que tu as demandé. Mais il y a des prières qui nécessitent de celui qui prie la patience. Frappez, l'on vous ouvrira. Pendant que tu toques à la porte, il faut attendre un peu. Et c'est là qu'on t'ouvre. Ce sont des prières qui nécessitent de celui qui prie la patience. Mais il y a des prières qui nécessitent de celui qui prie la persévérance. Ce sont les prières du type « Cherchez, vous trouverez ». Le temps qu'on met à chercher est grand que le temps qu'on a mis à frapper ou à demander, on nous donne. Sans la persévérance, il y a des choses que tu ne verras jamais de la part de Dieu. Même si tu n'auras pas peut-être à voir, à palper directement, c'est pourquoi tu es en train de prier pendant ces 14 jours. La fin des 14 jours de prière n'est pas la fin des prières. Persévère dans la prière. Et la persévérance, c'est persévérer aussi quelles que soient les oppositions. Ce jour-là, la Bible dit que l'opposition était venue de la foule. La foule était en train de s'opposer à cette personne, le reprendre. Mais il arrive que l'opposition que nous connaissons vient des disciples de Christ. Dans Matthieu 15, la Bible nous parle de l'histoire de cette femme qui avait un problème. Elle vient, elle est en train de crier à Jésus. Secours-moi, viens en aide à ma fille qui a un problème. Et la Bible dit, les disciples ont commencé à dire à Jésus, mais chasse-la, elle nous embête, elle nous embrie, elle t'embête même toi-même. Que de fois l'opposition ne viendra pas des gens de la foule qui ne connaissent pas Dieu. L'opposition viendra des disciples de Christ. Là où tu pries, on te dit, mais toi aussi, arrête ces histoires de prières. Arrête-toi que tu as prié plus que tout le monde. Mais malgré l'opposition, persévère dans la prière. Il y a des choses que tu ne verras jamais si tu n'as pas persévéré. Et ce qui est triste, c'est que lorsqu'il a persévéré, Jésus lui a dit, viens. La même personne qui l'est découragé commence à l'encourager. Va, il t'appelle. Il y a des gens qui ne t'encourageront que lorsqu'ils verront le fruit de ton propre encouragement. Voilà pourquoi dans la vie, tant que tu sais que Dieu est avec toi, apprends à te fortifier toi-même et à avancer. C'est lorsqu'il a les résultats, les mêmes personnes qui l'ont découragé lui disent, va, il t'appelle. On commence à l'encourager. Parce que les fruits de ce qu'il faisait a payé. C'est là qu'on voit des gens en train de prier, en train de commencer des choses. Les gens se moquent d'eux. Toi aussi, tu penses que ça. Et dès qu'on commence à avoir les résultats, on priait pour toi. On intercédait pour toi. Persévérer aussi dans la prière ou persévérer dans la marche chrétienne, c'est ne pas avoir peur de commencer petit. Ne pas avoir peur de faibles commencements. Frères et sœurs, qu'il y a des gens qui veulent commencer grand, naître grand. Il y a certains, pour que Dieu exauce vos prières, ça va nécessiter que vous preniez des décisions qui feront que vous commenciez petit. Tout le monde n'ira forcément pas dans un bureau climatisé de la PNUD. Il y a des gens, Dieu a placé la source de leur richesse entre leurs mains. Tu peux tresser, Dieu peut se servir de ça pour faire quelque chose dans ta vie. Que des fois nous avons des problèmes parce que nous avons peur et nous sommes mal à l'aise de commencer petit. On ne veut pas commencer petit. Abel a dit, le jour où Jésus est né, le diable a voulu passer par Hérode pour détruire tous les petits enfants, tous les bébés. Vous vous direz, mais c'est un bébé. Si le diable n'a pas peur de la destinée de quelqu'un alors qu'il est encore à son bas niveau, si le diable a peur du faible commencement, pourquoi nous, il nous arrive de négliger le faible commencement? Persévère. Sans la persévérance, il y a des choses que tu ne connaîtras pas et des choses que tu ne vivras pas. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, viens. Et dès que Jésus lui dit, viens, Bartimée jette son manteau, il va vers Jésus. Avant de courir là où Jésus était, il a d'abord jeté son manteau, il se débarrasse de son manteau et il va vers Jésus. Pourquoi ne pas aller vers Jésus avec son manteau? Il a compris que si je cours avec ce manteau, ça va me retarder la course, la marche vers Jésus. Ça va me retarder l'exaucement de ce que je suis en train de chercher à recevoir de la part de Dieu. La cinquième des choses à retenir, c'est que dans la prière, apprenez à vous débarrasser de tout ce qui vous retarde de votre exaucement. Apprenez à vous débarrasser de tout ce qui vous retarde de la marche vers Jésus. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, mais si tu n'as pas abandonné d'autres choses, toi-même tu seras l'obstacle à tes propres prières. Seigneur, donne-moi un fiancé. Seigneur, donne-moi un mariage. Mais dans l'entretemps, tu es avec le papa de tout. Toi-même, qu'est-ce que tu cherches? Il y a des manteaux que tu dois jeter, tu dois mettre de côté si tu veux que Dieu accomplisse certaines choses dans ta vie. C'est un peu comme cet homme appelé Joseph. Joseph avait la destinée à devenir premier ministre. Mais Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre sans perdre des tuniques. La première tunique qu'il a eu à perdre, c'est la tunique de son père. La tunique que son père lui a cousue, cette tunique-là, la Bible dit, ses frères l'ont dépouillée, ils l'ont ramenée chez son père. Il va en Égypte sans tunique. Il arrive dans la maison de Potiphar, on lui donne une tunique d'esclave dans la maison de Potiphar. Mais il ne peut pas devenir premier ministre sans perdre cette tunique-là. Il fallait que cette tunique reste dans la maison de Potiphar. Il va en prison, on lui donne une tunique de prisonnier. Mais il ne pouvait pas devenir premier ministre avec cette tunique-là. Il fallait aussi que cette tunique reste et qu'il revête la tunique des premiers ministres. Toi, tu veux devenir premier ministre, mais tu n'es pas prêt à perdre des tuniques. Et la tunique de Bartimée était visible. Mais peut-être que toi, les choses que tu dois abandonner, ce sont des tuniques invisibles. Ce sont des choses que tu as entretenues. Les gens ne savent pas. À te regarder comme ça de l'extérieur, ah, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mais toi, tu sais qu'entre toi et Dieu, ça ne marche pas. Il t'a toujours reproché de cela. Il t'a toujours demandé d'abandonner cela. Mais tu entretiens ça, tu entretiens ça. Frères et sœurs, la prière, ce n'est pas du fétichisme. Où tu vas prier et tu te dis, Dieu va bénir mes péchés parce que j'ai prié. C'est un peu comme les gens qui pensent que leur dîme va bénir les péchés qu'ils ont eu à faire. Si tu n'es pas prêt à abandonner le manteau, les choses qui te retardent la marche, il y a des choses que tu ne verras pas de la part de Dieu. Je ne vais pas te citer ces choses-là, toi-même tu les sais. Et à un certain niveau, comme je le disais, il ne suffit pas de prier simplement. Il faut prendre les décisions. Je disais le dimanche, un des grands défis que nous avons, c'est que nous prions là où il faut travailler. Et là où il faut travailler, nous prions. Ça te coûte quoi? Je vais prier que cet homme-là parte, qu'il parte, qu'il parte. Non, non. Bloque-le, appelle-le, tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, je ne suis plus à toi. C'est comme cet homme qui venait à peine de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, et il était accro à la cigarette. Un jour, il s'est dit, j'ai sans envie d'aller fumer, mais... avec ma nouvelle identité, je ne saurais pas. Et puis il fait une prière. Il dit à Dieu, si tu ne veux vraiment pas aujourd'hui que je fume, ne permets pas que mes pieds quittent ici. Et il sort, il commence à marcher. Pendant qu'il est en route, il dit, Seigneur, si vraiment tu ne veux pas que je fume, ne permets pas que là où j'ai toujours acheté mes cigarettes, qu'il y ait du stock. Il entre, il demande, il y a de la cigarette ici. On lui dit, oui. Il dit, Seigneur, ne permets pas que lorsque je vais donner ça, que les briquets s'allument. Il prend. Briquet, ça. Seigneur, ne permets pas que je place ça sur ma. Et puis après, il dit, tu vous voyez, même Dieu voulait aussi que je fume, même Dieu voulait aussi. Et la Bible dit, lorsqu'il a couru vers Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te donne? Il dit, que je recouvre la vue. Et il lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous allez réaliser, frères et sœurs, que ce jour-là, Jésus ne l'a pas guéri comme il guérissait les autres aveugles. Je disais ici, un jour, il y a un aveugle qui est venu vers Jésus, et il arrive, Jésus le regarde, il crache à terre, il mélange la boue et sa salive, il place sur ses yeux et il lui dit, va te laver aux eaux de Siloé. Je vous disais, la personne à qui on dit cela, c'est un aveugle. Il n'a personne pour l'accompagner. Comment il est sorti là où il était pour aller jusqu'aux eaux de Siloé? C'est un peu comme ce qui se passe ici. Jésus a dit à Bartimée, viens. Et la Bible dit, Bartimée vint d'un bond vers Jésus. Il n'a personne pour l'accompagner, mais il quitte là où il était pour aller vers Jésus. Comment il est arrivé là-bas? Et je disais, lorsque Dieu, c'est le chemin qui vous envoie, vous connaîtrez le chemin. Lorsque c'est le chemin qui vous appelle, vous connaîtrez le chemin. Mais Jésus ne guérit pas Bartimée comme il le faisait pour les autres personnes. Il change de méthode. Et notre leçon à retenir, c'est que lorsque nous prions, à nous la prière, à Dieu la méthode. À nous la prière, à Dieu la méthode. Pendant que vous priez, ne commencez pas déjà à schématiser. Dieu va passer par tel oncle pour que ce que je lui demande arrive. Et lorsque l'oncle ne fait pas ce que vous pensiez qu'il allait faire, blessure intérieure. Dieu a plusieurs méthodes par lesquelles il peut agir pour venir en aide à chacun de nous. La méthode qui a fonctionné pour le voisin, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour toi forcément. Et pendant que nous prions, à nous la prière, à Dieu la méthode. Et une autre chose est que lorsque cet homme arrive auprès de Jésus, deux dernières leçons et puis on finit, Jésus lui pose une question, il dit, que veux-tu, je te donne. Et dit, que je recouvre la vie. Cet homme n'a pas dit à Jésus, donne-moi l'aumône. Il a compris que l'aumône, je l'ai reçu des hommes. Mais ça ne m'a pas changé. Auprès de Jésus, j'ai besoin de la vue. La vue qui fera que je ne revienne plus là-bas. La vue qui fera que je sois aussi capable de venir en aide à d'autres personnes autour de moi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau ici? Bartimée quitte les prières de besoin pour les prières de transformation. Le changement commence dans la vie lorsqu'on apprend à quitter les prières de besoin pour les prières de transformation. Est-ce qu'on est en train de dire que nous ne devons pas exposer nos besoins à Dieu? Non, non. Mais il arrive que notre plus grand besoin, ce ne sont pas ces besoins que nous présentons à Dieu, c'est au-delà de ça. Et la Bible dit, après avoir reçu sa guérison, il a suivi Jésus sur le chemin. La dernière leçon à retenir, c'est qu'après avoir reçu l'exaucement de votre prière, n'oubliez pas celui qui a exaucé votre prière. Après que Dieu vous ait béni, allez-vous toujours vous souvenir de ce Dieu qui vous a béni? Ne pas oublier le Dieu qui nous a béni, ça fait référence à ne pas oublier de lui rendre grâce pour toutes les grâces dont nous serons bénéficiaires. À toutes les grâces de Dieu, nous devons rendre des actions de grâce. Ne pas oublier celui qui nous a béni veut dire ne pas se servir de l'exaucement de nos prières pour commencer à aller loin de Dieu. C'est un peu comme cet homme appelé Jonas. Dieu a béni Jonas avec l'argent, mais Jonas commence à se servir de l'argent que Dieu lui a donné pour se payer les tickets pour fuir Dieu. Et paye les tickets pour aller loin de Dieu. Et des gens, ils ont pleuré, ils ont cherché Dieu. Lorsque Dieu les a exaucés, ils se servent de bénédiction de Dieu pour commencer à aller loin de Dieu. Lorsque Dieu va t'exaucer, lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va changer ta vie, prends garde à ne pas abandonner le Dieu qui t'a accordé les choses que tu auras reçues. On relate l'histoire de cette sœur qui était à l'intercession intercesseuse, elle priait beaucoup à l'église et quelque temps après, il n'y avait pas de mariage, on a prié pour elle. Après un moment, Dieu l'a bénie avec le mariage. Quelque temps après, l'enfant n'arrivait pas et elle était là, l'église a prié pour elle et après cela, Dieu s'est souvenu d'elle. Et là, il y a un enfant. Et après ça, elle a disparu complètement à l'église. Et lorsque le pasteur la rencontre, il dit, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle dit, mon enfant n'aime pas les bruits de l'église. Là où tu as reçu ton exaucement, aujourd'hui, il y a quoi, bruit? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas ensemble ici parce que Dieu ne t'a pas encore visité? Il y a des gens qui n'ont pas l'attachement à Dieu, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Il manque juste le moyen qu'il faut pour s'acheter les péchés qu'ils veulent avoir. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent. Lorsque Dieu t'aura accordé tout l'argent nécessaire, est-ce que tu vas rester chrétien? Aide-moi à demander à celui qui est à tes côtés, lorsque tu auras l'exaucement, est-ce que tu vas rester chrétien? Là où lorsque Dieu te bénit, Dieu te donne les moyens financiers, tu commences à arriver à l'église en retard et tu dis au protocole, vous devez m'amener là devant, là devant, là devant. Sinon je rentre. Alors si tu veux rentrer, rentre. Rentre. Vas-tu rester chrétien lorsque Dieu va te bénir? C'est bon de présenter nos requêtes à Dieu, de prier pour cela. Les serviteurs de Dieu, ils vont même prier pour vous. Mais lorsque Dieu va vous exaucer, tu demandes à Dieu l'onction, l'onction, l'onction. Lorsque Dieu va te donner cette onction-là, vas-tu continuer à rester obéissant à tes responsables? Là où ton responsable te dit, tu ne vas prêcher nulle part sans que nous n'ayons autorisé cela. Ah, l'onction, Il y a des gens, papa, il a juste prié pour quelqu'un pour qui avait la grippe seulement. La grippe est partie. Ah, dans l'église, c'est compliqué. Les autres même, ils pensent avec simplement la prière pour la grippe. Il a prié pour quelqu'un qui avait grippe seulement. Il commence un ministère. Grippe. On t'apprendra qu'à la pharmacie, on guérit aussi les grippes, mais il n'y a pas de ministère qui sont nés de pharmacie. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es pendant un moment et que tu parles à Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Je ne sais pas par quel point Dieu t'a le plus parlé ce matin. Est-ce qu'à un moment, tu n'arrives pas à bien prier parce que tu es tellement concentré sur ce que tu as perdu, sur ce que tu manques? Nous avons vu le dimanche passé que la prière est capable de changer de saison et que la prière aussi est capable de nous ramener une saison que nous avions perdue. Peut-être que tu es là ce matin, tu reconnais que tu as connu des visitations de la part de Dieu, que tu as connu des moments où Dieu t'a mis au large, il t'a introduit dans une saison, mais que tu n'as pas su bien gérer. Et tu aimerais dire à Dieu ce matin, ramène-moi la saison que j'avais perdue. Ramène-moi cette saison que j'avais mal gérée. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, tout au long de cette année, pendant que tu vas exaucer mes prières, pendant que tu vas me visiter, donne-moi de saisir le temps de ma visitation. De saisir le temps de ma visitation. Peut-être quelqu'un dira à Dieu, apprends-moi à prier conformément à la connaissance de Dieu. Ou quelqu'un ce matin dira à Dieu, apprends-moi à persévérer dans la prière. Je me relâche facilement. Lorsque j'ai prié, je n'ai pas vu l'exaucement. Je me relâche facilement. Seigneur, apprends-moi à persévérer dans la prière. Ou peut-être tel que tu es là, tu reconnais du fond de toi qu'il y a des choses que tu as entretenues qui te retardent la marche. Il y a des manteaux desquels tu dois te débarrasser. Tu as peut-être fait des efforts pour abandonner cela, mais ça n'a pas marché. Et ce matin, tu aimerais dire à Dieu, cette fois-ci, pendant cette année, j'ai essayé beaucoup des années, mais ça n'a pas marché. Cette année, je vais en finir avec la masturbation. Je vais en finir avec la pornographie. Je vais en finir avec l'infidélité. Mon épouse sait que je suis un homme fidèle. Mon partenaire sait que je suis un homme fidèle. Mais je vais en finir avec l'infidélité. Je vais en finir avec la corruption, le vol, le mensonge. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. À Dieu, je vais faire confiance aux méthodes que tu utilises pour me visiter. Tu nous as dit à nous la prière, à toi les méthodes. Je veux faire confiance à tes méthodes. Il arrive qu'après avoir prié, je veux commencer à me façonner mes méthodes à moi. Mais tu nous as dit, nous devons faire confiance à tes méthodes. Apprends-moi à te faire confiance. À faire confiance au chemin que tu es en train d'utiliser pour m'amener là où tu veux m'amener, pour faire ce que tu veux faire dans ma vie. Et Seigneur, je te prie, pendant que tu vas exaucer ma prière, pendant que tu vas accomplir pour moi toutes ces choses que je suis en train de te demander, ne permets pas que j'aille loin de toi. Ne permets pas que mes pas dévient de ta volonté, que j'aille à l'encontre de ta volonté. Ne permets pas que j'aille loin de toi. Je veux rester chrétien, même après avoir reçu mon exaucement. Je veux rester chrétien, même après avoir reçu l'exaucement de mes requêtes. Parle à Dieu encore. Alors que nous sommes en train de prier, j'aimerais faire cet appel. Pendant que tu as écouté ce message, tu t'es senti concerné d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas par rapport à quel point exactement, mais tu reconnais du fond de toi que tu as besoin de l'aide de Dieu. Et tu veux dire au prédicateur, j'ai besoin de la prière. Par rapport à un ou un autre point, j'ai besoin de la prière. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Allons prier. Merci pour les mains qui se lèvent. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Je vais appeler les révérends pasteurs. Pas faisceau, il va s'avancer.
Ok, avant les phénomènes, nous allons nous mettre debout là que nous sommes pour que nous recevions la prière que nous demandons à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te glorifions et nous te bénissons pour cette parole que nous venons de recevoir de ta part. Seigneur, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à te connaître afin que nous marchions avec toi même quand tu resteras incompréhensible. Donne-nous l'esprit de discernement afin que nous sachions quelle est réellement ta volonté dans nos vies. Nous prions, Seigneur, pour ton Église. Toute personne qui vient d'écouter cette parole puissante. Oui, Seigneur, nous avons tous besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ta présence dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Plus particulièrement, tu connais mon frère et ma sœur qui sont debout. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de ton intervention d'une manière particulière. Visite-le, Seigneur. Tu connais la raison. Qui a poussé à chacun d'eux de mettre sa main à l'air? Tu connais leurs besoins réels qu'ils présentent devant toi. Seigneur, viens visiter. Toi qui agis dans les visibles et dans l'invisible, Seigneur, agis puissamment dans la vie de chacun de tes enfants. Nous avons besoin que tu nous accompagnes dans cette marche avec toi. Nous sommes liés par ceci ou cela. Nous voulons marcher avec toi, mais nous restons toujours dans nos cultures. Seigneur, aide-nous à sortir de nos cultures qui nous lient et qui ne nous permettent pas de te rester fidèle et de bien cerner ta volonté dans notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, car nous savons que ta grâce seule nous suffit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.